Vitalité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À l'occasion de son 10e anniversaire, l'association Soltis, Solidarité Thérapeutique et Initiative contre le Sida, organise un forum international à l'université Pierre et Marie Curie avec pour thème « Sida, les nouveaux défis en Afrique ». C'est le continent le plus touché, hein, mais les pays africains ne sont pas égaux devant l'accès au traitement. Au Botswana et en Namibie, les besoins en antirétroviraux sont couverts à 95%. Ce taux est nettement plus bas dans certains pays. Au Niger, c'est seulement un tiers. D'ailleurs, dans le monde, seulement la moitié des personnes qui en ont besoin ont accès au traitement. Alors, comment améliorer cet accès aux soins et également la formation des médecins? Où en est-on de la disponibilité des examens biologiques? Quels sont les progrès? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Je vous les présente. Ils sont quatre autour de cette table. Le docteur Louis Pizarro, qui est directeur de Soltis. Le professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui est socio-anthropologue dans un laboratoire nigérien en sciences sociales, le LASDEL. Hein, c'est le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey au Niger. Le professeur Eric Adeossi, qui est chef du service de médecine interne à l'hôpital national de Niamey au Niger. Et le professeur Mohamed Cissé, qui est chef du service de dermatologie MST du CHU de Donka à Conakry en Guinée. Bonjour à tous les quatre et merci vraiment d'être là pour nous parler du travail de Soltis, mais aussi de ce que vous faites chacun sur le terrain. Louis Pizarro, pourquoi une ONG de plus contre le sida? Pourquoi avoir créé Soltis il y a 10 ans?
Voilà, Soltis donc a été créé en 2003 et il obéissait, je pense, à vraiment un constat qu'on a pu faire à l'époque, à savoir, comme le disait Jacques Chirac, les malades sont au sud alors que les médicaments sont au nord. Pratiquement aucun patient africain infecté par le VIH recevait des traitements antirétroviraux à l'époque. Et deuxièmement, heureusement, la communauté internationale, à partir du début des années 2000, avait commencé à se mobiliser, notamment au niveau des ressources financières. Les programmes de la Banque mondiale, du Fonds mondial et puis du programme américain, le PEPFAR, sont arrivés avec beaucoup de financement. Et donc, ce dont les pays avaient besoin n'était pas encore un financement de plus, n'était pas qu'on vienne traiter des malades à la place des médecins africains, était vraiment qu'on partage avec eux l'expérience que nous, chercheurs, médecins français, on avait eue au cours des années 90 ici en Europe, qu'on vienne partager cette expérience, ce savoir-faire avec eux et qu'on permette du coup aux équipes africaines de devenir autonomes dans la prise en charge. Voilà quel était le projet de Soltis au début.
Avec l'idée de prévoir un accès aux soins ou aux traitements de qualité, je dirais de qualité à peu près équivalente à ce qu'on peut avoir nous dans les pays occidentaux, c'est bien ça votre recherche?
En tout cas, au niveau de Soltis, on a toujours placé la barre très haut, je dirais même plus haut que ce que disait l'OMS à l'époque, qui en effet disait, bon, on va essayer de faire un petit peu avec les moyens de bord, et nous on disait non, au contraire, il faut être plus ambitieux, il n'y a pas de raison que les malades ici en France soient traités avec les bons examens biologiques, avec les bons médicaments. Il faut qu'on demande exactement les mêmes prérequis pour l'Afrique. Et on est assez content aujourd'hui de voir que l'OMS, justement, a énormément évolué depuis. Et les nouvelles recommandations qui viennent de sortir sont pratiquement équivalentes à celles des pays du Nord.
Professeur Eric Adeossi, vous êtes chef du service de médecine interne à l'hôpital national de Niamey au Niger. Quelles sont les avancées dans la lutte contre le sida pour vous sur justement ces 10 dernières années?
En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord une première étape où c'était la disponibilité des examens complémentaires. Donc, pour diagnostiquer la maladie et suivre les patients. Et ensuite, nous avons eu la mise en route des traitements antirétroviraux que nous pouvons avoir maintenant pour tous les patients qui sont suivis au niveau du Niger. Et tout ceci a entraîné un changement de mentalité de nos patients où c'était beaucoup plus facile maintenant de faire un counseling et les patients...
Et d'aller se faire dépister,
voilà,
j'imagine.
C'était beaucoup plus facile de se faire dépister parce qu'au bout, on sait qu'il y a une prise en charge, il y a un traitement qui est possible.
Donc pour vous, la vraie révolution, c'est l'accès au traitement. Simplement, dans les chiffres que j'ai donnés au début, apparemment, au Niger, il y a simplement un tiers des patients qui devraient être sous traitement, qui le sont. Alors, Pourquoi est-ce que vous n'avez pas assez de médicaments disponibles, pas assez de personnel formé, ou les gens ne vont pas suffisamment se faire dépister?
Le point le plus important, c'est peut-être la dernière hypothèse, c'est que jusqu'à présent, on a beaucoup de difficultés à continuer à recruter des malades, donc à dépister. Bon, il faut savoir aussi que la prise en charge, c'est vrai qu'elle est décentralisée, mais elle ne va pas au plus profond, elle s'arrête juste au niveau des régions. C'est peut-être qu'il faut augmenter la décentralisation, arriver au niveau des départements, créer des centres de suivi. D'ailleurs, nous sommes sur un processus de décentralisation qui devrait permettre donc aux départements de diagnostiquer et de prendre en charge les patients vivant avec le VIH. Tout ça pour augmenter donc la couverture concernant donc les antirétroviraux.
Mais quand vous avez un patient devant vous qui a besoin d'être sous antirétroviraux, vous les avez à disposition?
Oui. En ce moment, les antirétroviraux sont disponibles au Niger.
Professeur Mohamed Cissé, vous êtes chef du service de dermatologie MST du CHU de Donka à Conakry en Guinée. Pour vous, je dirais même question en disant qu'est-ce qui a changé. Vous allez peut-être me répondre que c'est la même chose, l'arrivée des antirétroviraux.
Oui, beaucoup de choses ont changé et nous sommes aussi passés par des étapes. Mais il faut reconnaître qu'avant les 10 dernières années quand même, les choses ont démarré timidement en Guinée. C'était la fin des années 90, précisément en 1999, où les antirétroviraux étaient disponibles déjà, mais dans le privé. Dans le privé, et il y a eu des formations d'un certain nombre de prestataires et grâce aux firmes pharmaceutiques. Et à partir du début des années 2000, il y a eu l'initiative guinéenne d'accès aux antirétroviraux qui a permis de négocier le prix des antirétroviraux et baisser le coût des antirétroviraux. Mais tout cela n'était pas accompagné avec tout ce qu'il fallait pour une prise en charge de qualité. C'est-à-dire que les examens biologiques tels que les CD4 et la charge virale n'étaient pas disponibles. Les patients étaient dépistés en dehors de l'hématologie et de la biochimie qu'ils faisaient. Ils bénéficiaient du traitement antirétroviral sans suivi immunologique et virologique.
Qui permet d'adapter le traitement.
D'adapter le traitement et d'évaluer la qualité du traitement pour savoir si vraiment le traitement marche bien.
Et aujourd'hui, alors justement, ces analyses de CD4 et de charge virale, vous les avez?
Justement, j'en viens. Les choses ont évolué quand même puisque depuis 2008, d'abord le traitement antirétroviral, non seulement il est gratuit, mais aussi, et le dépistage et les CD4, mais aussi la charge virale sont gratuits. Mais malheureusement, la charge virale n'est pas disponible tout le temps. Tout le temps, on a d'énormes difficultés à réaliser cet examen, ce qui fait que le suivi des patients est basé uniquement sur les CD4.
Alors, on a reçu justement un mail de Ibrahima Mbaye, qui est à Conakry, en Guinée, et qui dit... Non, il n'est pas à Conakry, en Guinée, mais il dit « j'y vais souvent ». Et je voudrais suggérer d'ailleurs aux dirigeants de l'ONG Soltis d'aider la Guinée-Conakry à acquérir des appareils pour la charge virale. En Guinée, il n'y a aucun appareil de charge virale pour mesurer la charge virale fonctionnelle. Alors, il n'y en a aucun ou il y en a, il ne fonctionne pas toujours. C'est quoi exactement?
Au jour d'aujourd'hui, à part une ONG qu'on appelle la communauté Saint-Igidio, qui a un appareil de charge virale qui marche, mais dans les structures publiques, aucun appareil ne marche au jour d'aujourd'hui. Mais je pense
et pourquoi aucun appareil ne marche? Ils sont compliqués à faire fonctionner?
Bon,
ils tombent en panne souvent?
Pas compliqué à faire fonctionner. Il y a eu des difficultés à faire fonctionner. C'est vrai, justement, c'est le lieu de remercier Soltis, qui s'était beaucoup investi depuis son arrivée en Guinée, pour mettre en route les appareils de charge virale dans deux sites précisément dans le public. C'était le laboratoire national de référence, mais aussi l'hôpital national d'Onka. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés d'approvisionnement en réactifs, mais aussi un certain nombre de problèmes, et ce qui a fait justement que ces appareils-là n'ont pas marché. Mais nous avons quand même un projet ambitieux avec Opéra qui est en cours et qui va très bientôt démarrer dans ces deux sites également, où d'ailleurs Soltis va construire un bâtiment pour accueillir justement un laboratoire de biologie moléculaire au sein de l'hôpital Donka et renforcer aussi le laboratoire national de référence. Et ce projet-là, ça donne dans le cadre du projet Opéra qui couvre 4 pays africains.
On en a parlé d'ailleurs avec Esther de ce projet. Louis Pizarro, c'est important. Non, juste un mot de réaction là-dessus parce que vous nous aviez alerté, nous, dans Priorité Santé, il y a déjà quelques années, sur le fait qu'il n'y ait pas de raison, qu'il n'y ait pas ces examens à la fois de CD4 mais aussi de charge virale, que c'était indispensable pour un bon suivi.
Tout à fait. Il y avait d'abord l'idée que l'OMS devait préconiser l'utilisation de la charge virale, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, ça le devient. Il y a eu des études sur le coût efficacité de la charge virale aujourd'hui qui montrent quand on arrive à avoir des examens de charge virale à un coût tout à fait correct, bas, comme on va le faire avec ce projet Opéra, que c'est co-efficace d'avoir la charge virale là-bas, donc il n'y a plus aucun obstacle pour le faire, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et c'est important de revenir sur ce projet Opéra, vous en avez parlé tout à l'heure, donc c'est un consortium français dans lequel on retrouve la NRS, donc la coopération française avec Esther, SIDAction et Soltis, avec un financement de Uniten. Et ça va être très important parce que l'idée est vraiment de rendre le marché de la charge virale ouvert. Aujourd'hui,
il est moins cher, donc, quand vous dites ouvert.
Et ouvert, c'est-à-dire aujourd'hui, il est monopolisé par deux marques américaines. Et l'idée, c'est que plusieurs autres marques de réactifs et de charge virale puissent rentrer dans le marché et ainsi faire baisser les prix. C'est un très beau projet et nous sommes donc ravis que la Guinée ait pu l'intégrer.
Et on va voir tout au long de cette émission quelles sont les difficultés qui persistent dans la lutte contre le sida.
Santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le sida en Afrique à l'occasion du 10e anniversaire de l'association Soltis, Solidarité Thérapeutique et Initiative contre le sida. Jean-Pierre-Olivier de Sardan, vous êtes actuellement à Niamey au Niger. Enfin, là, vous êtes dans nos studios, mais vous travaillez à Niamey au Niger, dans un laboratoire nigérien en sciences sociales, le LASDEL. C'est le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Alors d'abord, c'est quoi un peu ce laboratoire? Et puis j'imagine que vous travaillez sur le sida.
Oui, alors nous ne travaillons pas que sur le sida, ni même que sur la santé, mais beaucoup sur la santé et entre autres sur le sida. Bon, c'est un laboratoire de sciences sociales qui vise au fond à former et à retenir les chercheurs africains en sciences sociales, ce qui n'est pas une mince affaire parce que il y a une fuite des cerveaux, comme vous le savez, mais aussi une fuite interne, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants à l'université font beaucoup de consultations, font beaucoup d'expertises, vont vers des fonctions politiques. Il n'y en a pas beaucoup qui exercent vraiment des fonctions de recherche et notre but c'était d'essayer de faire un laboratoire qui retiennent et ces jeunes chercheurs et qui soient, disons, à un niveau international. Donc nous existons depuis environ bientôt une quinzaine d'années. Nous nous intéressons essentiellement à la délivrance des biens et services publics ou collectifs et au fonctionnement des politiques publiques, disons, au point de délivrance. Donc ça veut dire les interactions entre ceux qui délivrent ces biens ou ces services, en l'occurrence les personnels de santé, et les usagers, en l'occurrence les personnes vivant avec le VIH ou les malades dans d'autres situations, dans diverses situations. Et donc c'est ça, le fait de travailler comme ça au point de délivrance permet, disons, deux avantages. D'abord, ça permet de voir un peu les perceptions des acteurs, les acteurs directement concernés, soignants, soignés, mais aussi, quand je dis soignants, ça s'étend aussi aux filles de salle, aux manœuvres, aux brancardiers, aussi bien qu'aux médecins ou aux sages-femmes. Quand on dit les usagers, c'est aussi les accompagnants qui, par exemple, jouent, on le sait, un grand rôle dans nos structures de soins, dans nos pays. Et c'est un autre avantage, c'est pour nous de permettre de voir le problème de qualité, qui est un des gros problèmes des systèmes de santé. Et ce problème de qualité, d'une certaine façon, implique souvent, si ce n'est pas toujours, aussi le recours à des méthodes qualitatives. Il est très difficile de percevoir les problèmes de qualité avec les appareils statistiques qui existent ou avec les méthodes de comptage qui existent. Et donc, nous, ça nous intéresse. Quand vous avez employé le mot qualité tout à l'heure en parlant de Soltis ou de Pazaro, je pensais à un des terrains sur lesquels on s'est rencontrés, qui était ce problème de la qualité des soins. Et aussi, si vous voulez, il y a ce que l'on appelle en anglais implementation gap, c'est-à-dire le fossé qui existe entre une politique publique et puis
sa mise en œuvre.
Or, ça existe dans toutes les politiques publiques, ça existe pas qu'en Afrique, mais ça existe aussi en Afrique, avec parfois des aspects particuliers dans nos pays, et ça existe dans la santé, et ça existe aussi, bien sûr, dans la prise en charge des malades ou des personnes affectées par le VIH-SIDA. Donc c'est un peu ces écarts aussi qui font partie des choses que nous appréhendons dans notre laboratoire.
Parce que pour le grand public, c'est toujours un peu étonnant de trouver un socio-anthropologue sur la question du sida. Et pourtant, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est indispensable pour être sûr que les programmes marchent, c'est ça? Et de comprendre s'ils ne marchent pas, pourquoi?
Oui, c'est-à-dire, il faut évidemment, si on veut se soucier de qualité des soins, même de voir comment les choses marchent, il faut bien un diagnostic. Et un diagnostic, en général, s'intéresse à ce qui ne va pas. Sinon, si quand ça va bien, il n'y a pas trop besoin de diagnostic. Les médecins diagnostiquent les problèmes avec les malades. Et nous, disons, dans les systèmes de santé, c'est un petit peu la même chose. Or, disons, il y a peu de moyens ordinaires de faire remonter les problèmes actuellement dans le système de santé. Soit parce que, disons, les statistiques sanitaires, les moyens de supervision, les moyens de remonter de l'information sont peu fonctionnels ou ne font pas remonter les problèmes de qualité ou ont tendance à camoufler ou à taire les difficultés, soit parce que les autres systèmes d'évaluation de type consultance ne consacre pas le temps nécessaire. Beaucoup de choses sur le fonctionnement des services de santé impliquent une présence prolongée sur le terrain, impliquent de recourir à une observation proche des actes de soins et pas simplement un passage rapide, etc. Et impliquent aussi à recourir, je dirais, à la parole privée des acteurs. Beaucoup de choses sont dites par les acteurs dans la conversation habituelle. Et tout le monde vous dira à Niamey ce qui ne marche pas dans les consultations SIDA ou PTME ou dans les salles d'accouchement. Tout le monde vous le dira. Mais dès qu'on est sur la place publique, dans des débats publics et dans des discours officiels,
personne n'ose prendre la parole.
Non, ce n'est même pas considéré comme pertinent pour des tas de raisons.
Alors que si vous faites une étude, ça devient déjà.
On fait exister. Des paroles privées, on les introduit sur la parole publique d'une certaine façon. On fait dire voilà le point de vue des malades, voilà le mécontentement des malades.
Si on prend la prévention de la transmission mère-enfant, par exemple, on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est pas en soi très compliqué. Okay. Et pourtant, ça ne marche pas.
Non, effectivement.
Et alors pourquoi, justement? Qu'est-ce que vous avez mis en évidence, voilà. Vous?
Alors, il y a beaucoup de. Disons qu'il y a deux types principaux de problèmes. Le premier, du côté du système de santé. La PTME se présente comme une activité, disons, qui doit devenir une activité de routine de la part des services de santé maternelle. Autrement dit, alors qu'avant, les activités concernant la lutte contre le sida étaient en quelque sorte des enclaves.
À part.
Des enclaves à part, qui avaient été montées avec des financements extérieurs, avec un appui d'ONG extérieur, avec beaucoup de fonds venant de l'extérieur. Donc, c'était des enclaves, disons, relativement, c'est paradoxal, mais plus fonctionnelles que le reste du système de santé, à cause de ces appuis techniques et financiers multiples. Maintenant, quand on change complètement d'échelle, lorsqu'on passe à la PTME, on est en train d'introduire une activité SIDA comme faisant en quelque sorte partie du
paquet...
Dans les maternités, dans les consultations prénatales. Ça commence, le point d'entrée, c'est la consultation prénatale. Et on veut le faire devenir comme faisant partie du paquet minimum d'activités. Mais en même temps, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que de fait, on voit bien qu'il y a tendance à une spécialisation d'un ou deux professionnels dans chaque centre qui devient le monsieur ou la madame, plutôt la madame SIDA, puisque ce sont des sages-femmes, qui sont spécialisées ou à qui on confie le soin du counseling pré-test ou du counseling de groupe, etc. Et donc on voit des sortes de points focaux SIDA, et donc c'est un truc, et les autres personnels de santé qui devraient être tout autant concernés, c'est-à-dire toutes les sages-femmes de la maternité, de la salle d'accouchement, ne s'occupent pas du SIDA. Ils considèrent qu'il y a une madame SIDA et puis c'est à elle de se débrouiller avec ça. Et donc il n'y a pas d'appropriation de ce système. Ça, c'est bon, il y a d'autres problèmes du système de santé. Il y a aussi un problème, disons, du côté de la profession de sage-femme, qui est celle qui est au centre de la PTME et qui a un certain nombre d'aspects dysfonctionnels dans cette profession qui sont relativement connus, qui sont assez compliqués à assumer, mais dont on ne parle pas. Et donc on introduit ça sans essayer au fond, en même temps que la PTME, de réformer ce qui ne va pas dans l'exercice du métier des sages-femmes. Il y a par exemple très peu de confiance actuellement entre parturientes, femmes qui accouchent et sages-femmes. Il y a aussi pas mal de tensions entre sages-femmes et médecins. Il y a une série de reproches qui sont faits aux sages-femmes sur la façon. Et donc, il y a une série, là aussi, de dysfonctions.
Est-ce que ça ne montre pas aussi, tout simplement, l'échec du suivi de la grossesse sur le long terme, finalement, dans des pays où des systèmes de santé ne sont pas en très bon état? Est-ce que ce n'est pas aussi, de façon assez basique, ça?
Bon, le problème des consultations prénatales, si vous voulez. Bon, c'est vrai que c'est un problème qui est débattu. Il y a beaucoup, il y a des tentatives, hein, il y a réforme sur réforme, hein, faut dire aussi. On est assumé, maintenant c'est la CPN recentrée qui est ça. Mais par exemple, si on prend la CPN recentrée, qui veut être une plus grande écoute, etc., elle a beaucoup de peine à se mettre en place parce qu'elle implique beaucoup plus de temps. Sur des sages-femmes qui considèrent que soit elles n'ont pas le temps parce qu'elles sont débordées, soit même si elles ne sont pas débordées, elles considèrent que tout travail supplémentaire devrait être l'objet d'une prime. Vous voyez, ce type de problème qu'on rencontre en permanence dans les systèmes de santé. Donc tout ce qui concerne l'activité de prise en charge des mères ou des femmes enceintes par rapport au sida, c'est beaucoup plus de temps supplémentaire. Et donc il y a une sorte de freinage des professionnels, des sages-femmes, parce qu'elles s'estiment ne pas être rétribuées en fonction de ce problème supplémentaire.
On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de la lutte contre le sida en Afrique.